curieuse, toi. Écoute Transistor.
L'heure du LEM a sonné, l'émission quotidienne de Transistor qui revient tous les jours du lundi au vendredi et des partenaires reviennent aussi. Comme aujourd'hui, Eau et Rivière de Bretagne qui lance un appel du 18 juin.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine avec de vrais morceaux de Finistère dedans, des gouttes de Finistère aussi. Aujourd'hui, il est question de l'eau avec une association partenaire de longue date. C'est une association naturaliste qui s'intéresse aux milieux aquatiques. Elle les fait découvrir, elle les protège aussi. C'est donc forcément également une association militante. Le 7 juin dernier, elle a lancé une manifestation avec d'autres associations et 4000 personnes ont répondu à ce rassemblement citoyen, paysan et familial pour défendre l'eau, la santé et la démocratie. C'était à Rennes. Le nœud du débat, ce sont la loi dite Duplomb et le récent projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole. Ces projets sont présentés comme des réponses à la crise agricole, mais selon la science, pas seulement selon les associations environnementales, ces projets s'inscrivent en réalité dans une logique de recul du droit de l'environnement au détriment de l'eau, au détriment de la santé publique et des écosystèmes et des agricultrices. Car l'eau potable, c'est notre bien commun, le plus précieux, c'est vital, c'est fragile. Donc cette manifestation, le 7 juin, elle avait du sens. Et puis il y a cette action en justice contre les projets miniers, plusieurs projets d'exploration minière qui sont en cours en Bretagne pour rechercher 40 métaux, certains très polluants et très toxiques pour l'eau, les sols et la santé. Et l'État a accordé des permis d'exploration à une multinationale canadienne, Orania Resources, dans le centre-Bretagne, malgré une large opposition de la population locale. Plusieurs associations, dont Eau et Rivière de Bretagne, vont porter l'affaire en justice avec l'aide d'une collecte sur Hello Assou. Quelques données enfin, en 2025, seulement 36% des cours d'eau, donc un peu plus d'un tiers des cours d'eau de France, étaient en bon état au regard de la directive cadre sur l'eau. Et aujourd'hui, dans plus d'un tiers de la France hexagonale, l'eau est réellement disponible, est inférieure aux prélèvements qui existent. Donc qu'il s'agisse, même quand on est hors période sécheresse. Donc pour que vous compreniez bien les enjeux, on va revenir à la base. Et on va revenir au cycle de l'eau, car notre invitée est d'abord animatrice et éducatrice nature Eau et Rivière de Bretagne. C'est Anouk Bonjean, bonjour.
Bonjour Véronique.
Est-ce que tu pourrais nous détailler les cycles de l'eau? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais bon, comment ça marche?
Je vais essayer de vous rendre ça compréhensible sans mes petits schémas, petites images.
Parce on que c'est quand même.
Non. Mais peut-être vous souvenez-vous de ce poster qui était affiché dans votre salle de classe quand vous étiez en primaire.
Oui.
Oui, non, mais en fait, c'est vrai que pour parler du cycle de l'eau, pour des publics pour les enfants, j'utilise vraiment des histoires. On suit une goutte d'eau et on se rend compte de la complexité de toutes les possibilités pour le voyage d'une goutte d'eau. Mais bon, là, je ne vais pas faire comme ça pour les autres.
D'ailleurs, on peut l'écouter toujours, le voyage de la goutte d'eau sur le site internet, quelque part dans les tréfonds du site internet de la radio.
Pour les enfants, mais bien sûr, et même pour les grands-enfants. Non, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer des masses d'eau et puis on va imaginer comment ces masses d'eau fonctionnent entre elles. Donc voilà, en gros, pour comprendre le cycle de l'eau, il faut voir trois gros réservoirs. Un réservoir qui est les nuages, donc c'est de la vapeur d'eau. Un réservoir qui est la mer, les océans, donc
mais
ça c'est
salée.
De l'eau salée. Et puis l'autre réservoir, pour schématiser, parce que j'essaye de simplifier, ça va être le sol. Voilà. Et donc là-dedans, en fait, on a de la circulation. Donc pour que l'eau aille du nuage au sol, y a des précipitations, des pluies. Voilà. Pour que l'eau du sol aille jusqu'à la mer, là, c'est les rivières.
Et des ruissellements aussi.
Des ruissellements, tout ce qui est ruissellement. C'est plus juste, oui d'ailleurs, ruissellement, ça prend en compte les rivières. Et puis, nuage-mer, mer-nuage, bon ça c'est... L'évaporation,
Et ça passe aussi par les plantes aussi, et même les animaux, entre guillemets, c'est ça
Alors ça, on rentre dans un autre cycle de l'eau. Donc là, on avait le grand cycle de l'eau, Voilà. Donc, juste pour bien comprendre le moyen de transport de la goutte d'eau, ça va être vraiment la température et le climat qui vont déterminer la vitesse à laquelle ça circule. Voilà. Plus il fait chaud, plus ça circule vite. Et il faut bien comprendre que l'eau change de forme. Donc, quand il fait froid, bah, elle se solidifie. Et plus il fait chaud, et plus elle se vaporise, en fait.
Voilà.
Elle
devient un gaz.
Voilà. Mmh. Donc, okay. Ça, c'est les bases, en fait, pour comprendre. Maintenant, si je veux détailler un peu d'autres cycles de l'eau, on va se pencher au niveau du sol. Qu'est-ce qui se passe dans le sol ? Enfin, au niveau du sol. En fait, on va avoir... Donc, on va avoir une grosse partie de l'eau qui tombe, qui va s'infiltrer.
Dans le sol.
Dans le sol, okay. Voilà.
Une grosse partie, ça veut dire une majorité quand même de l'eau s'infiltre ou on ne sait pas.
En fait, ça dépend. On sait. Hein, ça se mesure parce que sinon, on n'a pas... On mesure par territoire. Mais par exemple, pour la Bretagne, on a 26 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent par an. Là-dedans, on a très peu d'eau qui s'infiltre. En fait, on en a... je cherche dans mes petites notes.
La proportion, peut-être.
Ouais, on a plus de la moitié qui va repartir en évaporation.
Ah oui, avant même de s'être infiltrée dans le sol.
Ouais, voilà. De la moitié des 20... Ouais, voilà, c'est
parce
ça.
Parce qu'elle est restée en surface, en fait, cette eau. Pour qu'elle s'évapore, il faut qu'elle soit quelque part, qu'elle soit posée quelque part.
Ben non, même pas. En fait, elle peut très bien tomber. Et puis, quand la temps. En fait, tout ça, c'est une question de température. Donc, ça dépend de la température à la surface du sol, ça dépend de la température atmosphérique. Et donc, en fait, on peut avoir une évaporation.
Presque immédiate.
Bah, presque immédiate, oui, oui. Bah, dans les climats tropicaux, par exemple, c'est complètement ça, quoi. Il y a un truc. Il y a une proportion, il y a une part d'eau dans l'air.
Oui.
L'air, c'est 78% d'azote. Après, il y a de la vapeur d'eau. Enfin, voilà.
En suspension, en fait, quoi.
Ouais,
c'est de l'eau en suspension, si on veut. Ouais,
ouais. Mm-hmm. Une vingtaine de pourcents, je crois. Bon,
d'accord.
Que je revérifie ça aussi.
D'accord.
Voilà. Et donc...
Donc, le ruissellement, ce n'est pas la majorité. On va dire un peu moins de la moitié de l'eau qui ruisselle. C'est ça ? En Bretagne, en tout cas.
Ouais, mais alors...
Qui va dans le sol,
tout ça,
pardon.
Je les ai, les chiffres. Mmh. Moi, je veux quand même avoir les chiffres. Alors, on a 10 à 40% de l'eau qui va s'infiltrer.
Ok.
C'est énorme, la différence, parce que tout ça, c'est très variable en fonction de la nature du sol. Voilà. Et...
C'est pour ça qu'on parle souvent de la question de l'artificialisation du sol.
Et ben voilà. Voilà. En fait, ça, c'est pareil. Ben ça, c'est... on pourra revenir là-dessus au moment des menaces. Parce que pour que l'eau s'infiltre correctement dans le sol, il faut que le sol soit vivant. Donc il faut des vers de terre, il faut des taupes, il faut des mulots. Enfin, il faut tout un tas d'animaux qui vont creuser des galeries. Et ça permet vraiment... Et un couvert végétal adéquat, en fait.
D'accord.
Donc, par exemple, toutes les surfaces qu'on artificialise, donc on note artificialiser tout ce qui est urbanisé sous le bitume, mais aussi tout...
Les champs cultivés en agriculture intensive.
Les champs, ouais. Les forêts, qui ne sont pas des forêts, mais les champs d'arbres aussi.
Oui, voilà. Les cultures d'arbres.
Voilà, tout ce qui va être sur sol mort, ça ne s'infiltre plus.
D'accord.
Voilà, c'est du béton. Okay.
C'est comme du béton.
Okay. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très variable. Et puis, ça dépend aussi... ça dépend vraiment... Parce qu'on a aussi de la roche affleurante, quoi. Bon, bah là, ça ruisselle, voilà, c'est tout.
Oui. Ouais. Et puis sinon, il y a les rivières, alors, quand ça ne s'infiltre pas, c'est ça ?
Ouais, alors, il y a les rivières. Alors, les rivières, il faut vraiment les voir avec les eaux de surface. Et puis, il y a toujours une nappe affleurante. En fait, une rivière, c'est un mini-cycle de l'eau en soi, parce qu'il va y avoir des échanges d'eau entre la nappe qui est sous terre, qu'on ne voit pas, et la rivière, ce qui permet de maintenir en fait une température constante pour les organismes qui vivent à l'intérieur, et ça va épurer l'eau. Parce qu'en fait, il y a des va-et-vient qui se font à travers tout un tas de limons, de graviers, etc. Donc là-dedans, il y a des bactéries, et du coup, ça va dégrader plein de polluants et tout ça. Donc il faut bien voir qu'une rivière, elle fonctionne donc de l'amont vers l'aval, mais il y a aussi du haut vers le bas, puisqu'il y a toujours une nappe.
Et en donc, dessous d'une rivière, il y a toujours une nappe.
Ouais.
D'accord.
Mais quand on rectifie une rivière, qui a été beaucoup le cas chez nous, C'est pour ça que l'aménagement du paysage, c'est vraiment un gros, gros morceau en Bretagne. Hein.
Ah ouais. C'était, ouais. Donc rectifier, ça veut dire la rendre plus droite alors qu'elle serpentait gentiment avec des méandres, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Mmh. On en fait un canal. Ouais. Ou par exemple, on la dévie. Voilà. Mmh. Et bien là, il n'y a plus de nappe en dessous.
Ah, bah
donc
oui.
Là, on perd une énorme quantité d'eau là.
Ah oui, ouais. Du coup, elle va s'évaporer plus, en fait, c'est ça ? Elle ne va pas s'infiltrer aussi. S'il n'y a pas sa nappe en dessous, en fait, qu'est-ce qui va
oui,
se passer ?
Oui, tout à c'est fait. Il y a beaucoup moins... Déjà, il n'y a plus de fonctionnalité d'épuration de l'eau. Et en plus, on perd toute une partie de la biodiversité qui fait ça permet d'infiltrer l'eau. Et en plus de ça, elle se réchauffe plus vite. Donc, il y a plus d'évaporation.
De perte.
Okay. C'est ça, ouais. Mm-hmm. Après, un autre cycle qui existe au niveau du sol, ça va être vraiment le cycle des végétaux. Donc, comment ça marche ? En gros, vous avez un arbre. Bon, l'arbre, il vit forcément avec des champignons, donc avec des bactéries. Et tout ça, ça va faire encore un mini-cycle de l'eau. C'est-à-dire que l'ombre de l'arbre et les mousses et tout ça, ça va apporter une certaine humidité, une certaine fraîcheur. Donc, ça va limiter l'évaporation, ça va recondenser l'eau, ça va faire plus de rosée, par exemple, même le matin. Et donc, on ralentit énormément le cycle à ce moment-là. Après, tout ce qui va être largage de pollen et tout, ça va faire des poussières dans les nuages et donc ça va permettre de condenser plus facilement l'eau aussi.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pluie n'existerait pas s'il n'y avait pas des micro-particules pour que les gouttes se forment, c'est ça hein ?
Oui, tout à fait.
Donc, s'il n'y a pas de pollen, s'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de pluie.
Voilà.
L'eau ne peut pas retomber.
Oui.
Bon. Elle reste en nuage. Enfin, non, elle ne se forme même pas en nuage, c'est ça ?
Je ne sais pas ce qu'elle devient.
Ouais. Dingue.
Non, je sais pas ce qu'il
viendrait. En tout cas, elle ne retombe pas, c'est
en
sûr.
En tout cas, il n'y aurait pas... Oui, mais je pense que l'humidité serait l'air serait saturé en humidité.
Aussi, oui.
En fait, c'est ça.
Ça serait assez invivable d'ailleurs parce qu'on sait ce que c'est quand c'est une chaleur très humide.
Ah bah,
c'est
nous, de toute façon, on fait une régulation de notre température corporelle en transpirant. Donc nous aussi, en quelque sorte, on évapotranspire. Et si l'air est saturé d'eau, on ne peut pas se réguler thermiquement. Donc c'est létal hein, pour nous.
On meurt, ouais, tout simplement. Voilà.
Voilà. Voilà. Ok. Dire les choses crûment.
Allons-y. Hein. Voilà. On fait de l'info.
Et donc voilà. Bon bref. Donc les arbres, les végétaux, tout ça, ça va permettre de refaire un mini cycle de l'eau dans le grand cycle avec exactement cette histoire de voyage entre les nuages par l'évaporation, le sol, bon pas la mer du coup, mais le sol avec l'infiltration, puisque ça abrite tout un cortège d'espèces vivantes qui vont permettre à l'eau de bien s'infiltrer, de bien rejoindre le sol et donc, voilà.
Et donc ce cycle de l'eau court qui passe pas par l'océan, il est pertinent dans des régions qui sont éloignées de la mer où c'est finalement la source principale de pluie, ça va être la végétation locale.
Ah oui, tout à fait. Ouais. On provoque, enfin, il y a une expression qui dit qu'on provoque une sécheresse en rasant une forêt, quoi.
Voilà.
À quelques kilomètres de là, ouais.
C'est ça. Il y a une région en Inde qui subissait des sécheresses, qui a replanté vraiment massivement et qui a réussi à recréer de la pluie.
Ouais. C'est ce qui nous, en Bretagne en tout cas, nous concerne pas tant parce que nous on est vraiment trop proche de l'océan avec des vents dominants à l'ouest. Nous on vit dans un jardin, c'est vraiment, on a une chance, on a vraiment une chance, une grande chance.
Mais oui, incroyable.
On a une chance incroyable, on vit près de l'océan, on a des vents d'ouest qui poussent les nuages vers nous. Et voilà, on c'est bloqué par les Alpes là, en France, enfin, c'est vraiment... C'est vraiment un jardin, quoi.
Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il pleut chez nous, quoi. Voilà.
Ouais. Et alors, juste aussi pour dire ça, parce que tout ça évolue énormément en fonction des saisons et en fonction des conditions, donc d'une année sur l'autre, mais aussi en fonction des saisons, donc au sein d'une même année. Et puis en plus de ça, ça évolue avec des phénomènes de micro-météo. Et donc il y a un autre cycle de l'eau au niveau du sol dont je n'ai pas parlé, mais c'est pas grave, je verrai ça tout à l'heure. C'est que... je suis en train de me perdre.
Et si, on peut en parler de ce micro, micro-cycle de l'eau au niveau du sol ?
Le dernier ?
Ouais. Ouais.
Et bien, ce qu'il faut avoir en tête, et ça c'est vraiment très important pour comprendre après nos vulnérabilités, c'est que nous, en Bretagne, on n'a pas de nappe souterraine d'eau.
On le dit souvent, mais on vous le redit.
Ouais. Ouais, on en a très très peu. Voilà, notre sol, granit et schiste.
Voilà.
Non, voilà, très très peu. Donc, nos rivières, adaptées depuis des milliards d'années, se sont constituées des réserves via les zones humides. Donc, les zones humides, c'est des éléments paysagers humides, donc les marais, des prairies humides, des forêts humides, enfin bon, voilà,
tourbières.
Des tourbières, voilà. Et donc, ça vient en fait d'une nappe affleurante et d'une végétation qui s'est adaptée et qui va vraiment stocker l'eau, qui fait vraiment un rôle d'éponge. Donc, ça absorbe le surplus d'eau en hiver, parce que, donc, comme je vous ai dit, c'est pas le même régime en hiver et en été.
On s'en est rendu compte.
Voilà.
En même temps.
Et ça relargue tout doucement en période de sécheresse.
Ouais. Donc c'est important de garder les zones humides. Ce sont nos stockages d'eau qui remplacent les nappes phréatiques d'autres régions. Nous, ce sont les zones humides. Oui. On dirait pas parce que, enfin, c'est vrai, on n'a pas forcément l'impression. On voit de loin. Bon, ouais, d'accord, il y a un peu d'eau dans les fossés, mais en fait, il y a plein d'eau partout dans ces zones-là.
Ouais, 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 tout à fait. Et puis un autre truc qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que voilà, l'eau douce dans tout ce système-là, entre ce qu'il y a dans les nuages, ce qu'il y a dans la mer, ce qu'il y a dans les êtres vivants, ce qu'il y a dans le sol et qui n'est pas récupérable. Donc, l'eau douce, c'est vraiment moins d'un 20 millième de l'eau sur Terre.
Ouais.
Je répète parce que c'est les mal dit. Moins d'un...
Un 26 millième, c'est ça ?
Un 20 millième.
Un 20 millième,
de l'eau,
allez,
sur Terre. C'est hyper rare, quoi.
Ouais, okay. L'eau potable, enfin l'eau potentiellement potable, parce que l'eau douce,
elle n'est pas potable. Hein.
C'est ça, l'eau, toute pluie qui tombe sur la planète n'est plus potable. Elle a peut-être été potable un jour, mais elle n'est plus apparemment.
Non,
après
non.
Les dernières études scientifiques, boire de l'eau de pluie, c'est s'exposer, s'intoxiquer à quelque chose, quoi.
Ouais, voilà. De toute façon, c'est pas terrible pour la santé parce qu'en fait, nous, notre corps a besoin de sels minéraux et l'eau se charge en sels minéraux quand elle traverse le sol.
Ah oui, donc l'eau de pluie, c'est pas, ouais,
non,
c'est pas intéressant.
Non.
Okay.
Ça dépanne, quoi. Mais...
Ça dépanne, c'est ça. Alors, on a un petit peu abordé la question, mais donc on a vu un peu tous les points de circulation de cette eau, sa façon de vivre en fait à l'eau, même si elle n'est pas vivante. Alors, c'est quoi les endroits les plus vulnérables? En fait, il y en a un peu partout, mais c'est quoi les points vulnérables?
Ouais, parce qu'en fait, ce que je vous disais, quand les pluies ne sont pas toutes au même temps dans l'année, on appelle des pluies efficaces et des pluies non efficaces. Alors, les pluies efficaces, c'est celles qui vont recharger les nappes. Donc, c'est celles qui vont avoir lieu en automne et en hiver. Ça, c'est 10 milliards de mètres cubes par an.
Mais ça paraît beaucoup comme ça. Hein.
Ouais, mais c'était sur les 26 milliards qui tombent par an.
C'est même pas la moitié,
milliards.
Ouais,
non.
Déjà.
Ouais. Et donc, les pluies efficaces, c'est celles qui vont vraiment s'infiltrer et recharger les nappes. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas de nappes. Hein. Je l'ai
oui,
dit.
Oui.
Mais bon, il y en a quand même un petit peu. En tout cas, celles qui vont vraiment s'infiltrer dans le sol, celles qui pourront être utilisées en réserve. Et pour les rivières, pour avoir un bon fonctionnement. Et pour nous, parce que nous, on utilise l'eau des rivières pour la potabiliser.
Ouais, c'est ça.
Les eaux de surface, quoi,
ouais.
Pour être plus précis. Et donc, nos points de vulnérabilité, en fait, y en a plusieurs. Mais la première, ça a été... je ne sais pas si je peux vraiment hiérarchiser comme ça, mais...
Non, puisque c'est un cycle. De toute façon, tout est important. Mais commençons au hasard par un point de vulnérabilité.
Allez, un point de vulnérabilité, on va dire que c'est l'aménagement du territoire breton. En fait, on n'a pas de stockage dans le sol. Donc, on doit faire très attention à nos sols. Or, on est dans les régions les plus, qui s'urbanisent le plus vite. On n'a aucune gestion raisonnée de notre urbanisation, de notre agriculture.
On artificialise trop nos sols.
Beaucoup trop d'artificialisation.
Donc, on réduit l'infiltration.
Ouais, donc bah il y a un réservoir qui est en train d'être privé complètement d'eau en fait.
Le sol. Ok.
Et c'est un réservoir d'eau douce. Et j'ai dit à quel point il était
important.
Important. Mmh. Donc voilà, ça c'est une première chose. Bon, ce faisant, on détruit des espaces naturels comme les zones humides par exemple, et donc la biodiversité qui va avec. Et je vous disais, la biodiversité dans le cycle de l'eau, c'est capital parce que c'est un des modes de circulation de l'eau.
Parce que c'est tous les petits animaux qui vont creuser le sol, par exemple, c'est ça ?
Eh bien, c'est même plus que ça, en fait. Parce que, donc, on a tous les animaux qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Mais, par exemple, nous, quand on dit qu'on a besoin d'être hydraté, eh bien, on s'hydrate par l'alimentation. Donc, en fait, l'eau comme moyen de transport, elle va aussi utiliser les êtres vivants. Parce que de la bactérie, en passant par le coléoptère, et puis l'escargot, et puis en allant jusqu'à l'éléphant,
nous sommes pleins d'eau.
Tous besoin d'eau douce. Non, mais l'eau douce, celle qui fait de 1 vingtième de...
1 20 millième.
Voilà.
Voilà. Mais oui, non, mais parce que nous sommes des êtres d'eau. Enfin, à, oui. À trois quarts, on est rempli d'eau, quoi. Enfin,
mais on a pas... le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'eau sale et nous, on veut de l'eau
douce.
Voilà,
en plus.
Donc, c'est pour ça que, bon, dès qu'on supprime du vivant, on supprime de l'eau, quoi. C'est ça que je veux dire.
Oui,
bon,
tout à fait.
Ça, c'est une autre chose. Bon, ensuite, dans l'utilisation de nos sols, on utilise quand même une grosse quantité de polluants. Hein, donc
c'est ça.
C'est quand même un sacré problème.
Donc et même si elle est là, elle est plus buvable.
Voilà. Même, après, il faut la nettoyer, mais, oui, mais on n'a pas toutes les solutions.
Et puis, entre-temps, on a tué des tas de bactéries, des tas d'êtres vivants, justement.
Ouais, tout à fait.
Qui auraient pu nous rendre service. Enfin, qui nous rendaient service.
Ouais.
Ouais.
Donc bon, le premier vraiment gros problème, ça va être vraiment l'utilisation de nos sols et la gestion qu'on a de notre terre, en fait.
Tout à fait.
Ensuite, le gros problème qui nous arrive dessus là, parce qu'en fait, on avait des problèmes d'eau, mais ils ne s'étaient pas liés à ça. Et là, maintenant, c'est le changement climatique. Donc là, voilà, c'est pas rigolo hein, ce que je vais raconter. Mais bon, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir moins de ressources.
Parce que des sécheresses.
Parce que des sécheresses. Et puis, on va avoir plus de besoins en eau.
C'est ça. Il va moins pleuvoir et on sera quand même plus nombreux. Enfin, plus nombreux. En tout cas, on a des usages. Par exemple, de l'intelligence artificielle avec des centres de données qui ont besoin d'eau, des choses comme ça.
Mais même au-delà de ça, de toute façon, en période de grosse chaleur, on a besoin
Il faut
de
arroser.
Plus d'eau.
Oui,
on a besoin de plus d'eau. Donc, il y a plus de pression sur la ressource.
Mmh.
Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne vraiment les polluants, les pluies extrêmes, ça transfère les polluants. Elles ne vont pas voyager toutes seules. Elles embarquent tout un tas de trucs avec elles.
Quand il pleut fort, quoi. Quand il pleut trop fort.
Ouais,
et on en a de plus en plus, des grosses pluies qui ne sont pas efficaces. Pour en revenir à nos pluies efficaces ou pas efficaces, les très grosses pluies, elles ne sont pas efficaces.
Non, elles lavent tout, mais elles ne sont pas efficaces. Mais ça, c'est quand je parlais de l'accélération du cycle de l'eau à cause des températures, en fait.
Tout à fait.
Donc, il y a plus d'événements extrêmes. Donc, ensuite, on va avoir plus de cyanobactéries. Ça, c'est dans tout ce qui est eau.
À cause des températures, là, plutôt.
Ouais.
Donc, des genres de champignons toxiques, en fait, hein, c'est ça. Champignons,
c'est
algues, micro-algues toxiques.
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ça, c'est plus dans les eaux de surface dormante, on dit.
Elles étouffent, en fait, la vie, c'est ça, les cyanobactéries. C'est le problème, notamment.
C'est qu'elles sont toxiques et c'est qu'elles consomment beaucoup d'oxygène, quoi. Donc, et donc l'oxygène dans le milieu aquatique diminue à mesure que la température augmente.
Donc les autres animaux meurent, les
poissons. De toute façon, il y a un risque de j'allais dire étouffement, mais ça marche pas.
Si, c'est ça.
Si, c'est ça.
On étouffe la rivière, quoi. Enfin, le plan d'eau, la mare. Okay.
Tout à fait. Et puis, comme on a une baisse des débits estivales, on a une concentration des pollutions.
Et oui.
Ça, c'est
aussi.
C'est normal. Enfin, je veux dire, ça paraît logique. C'est
oui,
logique.
Même quantité de polluants, mais moins d'eau, ça fait plus de polluants concentrés dans l'eau.
Voilà.
OK.
Ensuite, ça va amener des perturbations pour l'eau potable aussi.
Oui, Ah oui, bien sûr, oui.
Donc là, le traitement de l'eau, il se fait par bactéries.
Ah.
Donc, si on a des grosses chaleurs, c'est plus compliqué. On n'a pas les mêmes... Enfin, elles peuvent moins travailler, les bactéries.
Elles se fatiguent. Donc,
voilà.
les bonnes bactéries cette fois, les bactéries qui épurent l'eau.
Ouais,
c'est ça, les bactéries, il y en a plein.
C'est vrai.
C'est tout un monde.
On a la remontée du biseau salé.
Du
biseau salé.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est parce qu'en fait, comme on est près de la mer, on a une élévation du niveau de la mer et on a une contamination des eaux douces qui sont proches de la mer.
Dans les estuaires.
Voilà.
Dans les fleuves, puisqu'on a beaucoup de fleuves côtiers. D'accord, donc ça veut dire que la partie salée de l'eau qui vient de la mer remonte plus haut dans les rivières, c'est ça?
Alors, on imagine qu'elle remonte dans les rivières. Alors oui, mais ça, c'est pas grave. Enfin, ça change un peu l'écosystème, mais bon. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'elle remonte aussi dans le sol.
Ah oui.
Et donc, tout ce qui était stocké dans le sol, qui fonctionnait pour qu'on ait de l'eau douce... Donc, j'ai dit que le sol, il ne stockait pas. Je l'ai dit, mais je le redis.
Ouais, oui.
Mais en fait, il faut imaginer plein de petites veines. Quoi.
C'est ça.
Ça alimente quand même les rivières. Ça,
bien
sûr.
Voilà. Ce n'est pas de la nappe phréatique, mais c'est des...
Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est contaminé par de l'eau salée. Donc, ça en fait encore moins à disposition. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Non, mais il y a plein d'autres choses.
Il y a plein de vulnérabilités. Puis on l'a vu aussi un peu en introduction. Il y a le fait que tout ça n'est pas démocratique. C'est-à-dire que les gens qui voudraient vraiment défendre la ressource en eau, la santé des écosystèmes et la nôtre aussi, on dirait qu'ils ne sont pas trop écoutés, en fait. Enfin...
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a plus de pression sur une ressource qui se fait de plus en plus rare, eh ben, il y a des personnes qui ont plus de pouvoir que les autres, qui prennent tout pour eux et qui les laissent, enfin, et qui veulent pas discuter pour que la ressource soit partagée. C'est un peu comme si on était dans une cour de récré et que non, c'est à moi.
Et mon eau.
Donc là, les instruments de la démocratie, ils sont capitales parce que sinon, ça part en n'importe quoi.
Bah, c'est plus de la démocratie, c'est de la dictature. L'appropriation d'un bien commun, en fait. Quoi, parce
ouais,
bah, puis faut vraiment considérer que l'eau, elle appartient à personne.
C'est
hein.
Le plus fort qui
mmh. C'est ça, plus fort qui s'approprie. Gagne.
Bah, mmh. Voilà. Donc là, c'est ce qui est un petit peu en train de se passer.
Ouais.
Franchement, disons-le franchement, là, il y a moins d'eau, mais on veut moins la partager aussi.
C'est ça.
Et on est en train de détricoter ce qui nous permet de discuter entre nous, parce que bon... C'est normal hein, qu'on ne soit pas tous d'accord.
Mais bien sûr, c'est la vie.
C'est normal. Mais par contre, il faut quand même... Enfin, la démocratie, là-dedans, c'était quand même quelque chose qui nous permettait de se dire, bon, on va s'organiser.
Ouais, et de prendre des décisions. Voilà.
Et de prendre des décisions collectives.
Mais là, il n'y en a
là,
plus.
Il n'y en a plus. Il faut les défendre, quoi. Il faut bien défendre.
Bon, c'est pour ça qu'on a fait cette émission, en tout cas. Merci beaucoup.
Il y a quand même des leviers, oui. Hein. C'est vrai qu'il peut faire des trucs. On n'a pas le temps d'en parler, c'est bien dommage.
Mais il y a des leviers, mais on ne perd pas espoir. On fera d'autres émissions de toute façon.
Voilà, c'est ça.
On espère que Oué Rivière reviendra. Oué Rivière de Bretagne reviendra. Merci beaucoup, Anouk. À bientôt.
Bonne journée.
Au revoir.